Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission de ce dimanche 20 juillet 2025. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. Et comme tous les dimanches, on commence avec le personnage qui a marqué la semaine. Cette semaine, nous allons parler d'un décès malheureusement, celui de Thierry Ardisson. Le personnage de la semaine, c'est bien sûr Thierry Ardisson. Adepte des interviews et des formules choc, l'animateur et producteur s'est éteint ce lundi à 76 ans. Retour sur cette légende de la télévision française, sur cette figure impertinente et prolifique du paysage audiovisuel avec François Vantôme.
Star du petit écran dès les années 80, Thierry Ardisson est mort à Paris des suites d'un cancer du foie. Ses interventions cash, voire intrusives, ont établi sa réputation. L'animateur avait le sens de la formule, certaines comme ses bonsoirs au Magnéto Serge restent indissociables de son personnage.
Ma vie n'a été que franchissement de limites, parce que quand on voit d'où je viens, et ce que j'ai fait, même si c'est pas grand-chose, c'est quand même très surprenant de la part d'un pauvre petit garçon provincial, parents sans argent, etc. Quoi, donc donc j'ai dépassé pas mal de limites, oui.
Né le 6 janvier 1949 dans la Creuse, d'un père ingénieur et d'une mère femme au foyer, Thierry Ardisson a été décoré de la Légion d'honneur en 2024. Marié à trois reprises, Thierry a eu trois enfants avec la musicienne Béatrice Loustalan. Il avait épousé en 2014 la journaliste Audrey Crespo-Mara. Thierry Ardisson a débuté sa carrière dans le domaine de la publicité, un secteur où il a rapidement fait preuve de créativité et d'innovation. Dans les années 70, il travaille pour l'agence de publicité Publicis, où il se distingue par sa capacité à concevoir des campagnes percutantes et mémorables. Cette expérience lui permet d'affiner son sens de la communication et de comprendre les rouages des médias.
Moi je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé au moine.
Amen.
Chaussé au moine.
Pour trouver des idées, il faut se mettre en position de radar. Il faut être capable de les capter, les idées. Donc, quand je suis dans un bain avec un pétard, je suis décontracté, j'ai l'esprit libre, je suis désinhibé.
Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre au Vauvaltine, c'est de la dynamique.
Diététique, de l'effort.
Le génie, c'est de savoir s'obséder. Et pour trouver une idée, que ce soit une annonce de pub ou que ce soit une émission de télé ou n'importe quoi, moi, ma technique, c'est de me poser le problème à longueur de journée et de soirée. C'est-à-dire, je prends une douche, je me dis, partout où je prends le taxi. Et au bout d'un moment, on trouve. C'est-à-dire, mais il faut savoir s'obséder, quoi.
Sa passion pour le spectacle et sa créativité débordante le poussent ensuite vers la télévision. Toujours tout de noir vêtu, ce qui lui a valu son surnom, est flanqué d'un éternel sourire, Ardisson a bousculé le paysage cathodique avec ses talk-shows à succès où se rendait le tout Paris comme Bain de minuit, présenté depuis la boîte de nuit des bains-douches à Paris, Lunettes noires pour nuit blanche au mythique Palace et Rive droite, Rive gauche, premier magazine culturel TV quotidien en France.
François, évidemment, on a tous en mémoire des passages cultes de ces émissions. Est-ce qu'il y avait un style Ardisson ?
Facétieux et inclassable, Thierry Ardisson n'hésitait pas à bousculer les codes de la télévision. Ses émissions pouvaient être à la fois légères et sérieuses, permettant une réflexion critique sur des sujets sociétaux brûlants. Même ses débats les plus controversés, souvent choquants, servaient à ouvrir le dialogue sur des thèmes difficiles, apportant ainsi une dimension éducative à son travail. Il savait habilement jongler entre humour et sérieux, révélant des aspects méconnus de ses invités, tout en divertissant son public. Il a connu ses plus belles heures avec Tout le monde en parle sur France 2 de 1998 à 2006 où ses questions parfois trash ont souvent créé le buzz. Un rendez-vous incontournable qui a su rassembler des célébrités, des politiciens et des artistes de divers horizons. Il provoquait des réactions inattendues. Son humour incisif et son sens du timing faisaient de chaque conversation un moment mémorable.
Le fait d'être mal à l'aise, me disait, si toi t'es mal à l'aise, il n'y a pas de raison que les gens en face de toi soient pas mal à l'aise. Donc Gainsbourg qui choquait tout le monde, c'est comme ça que je suis devenu, disons, un peu connu, c'est que je lui dis, mais avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur que le petit Lulu soit un peu mongolo?
Ah ouais,
Gainsbourg, oh, quand même. Alors lui qui brillait, il brûlait des billets de 500, il était choqué, et après il y a le chanteur d'Indochine à qui j'ai dit qu'il chantait faux. Et là les gens ont dit, il est mauvais comme animateur, mais disons, il envoie le bois, quoi.
Thierry Ardisson est ensuite passé aux commandes de Salut les Terriens, de 2006 à 2019, sur Canal+, puis C8, qu'il doit arrêter après avoir refusé d'en baisser le budget. Jamais à court de concept, il a aussi présenté 93 Faubourg Saint-Honoré, dîner éclectique filmé à son domicile sur Paris 1ère. Et brièvement, Hôtel du Temps, sur France 3, où il interrogeait des stars défuntes recréées grâce aux nouvelles technologies. En 2020, c'est la consécration avec Arditube, chaîne YouTube lancée par l'Institut National de l'Audiovisuel et dédiée au patrimoine télévisuel, 35 émissions, d'un animateur peu connu pour sa modestie.
Alors, suite à son décès, il y a eu une pluie de réactions, bien évidemment, certaines nostalgiques, certaines très sulfureuses.
La disparition de Thierry Ardisson a suscité une vague de tristesse au sein du monde médiatique et parmi ses admirateurs. De nombreux artistes et collègues lui ont rendu hommage, évoquant non seulement sa carrière, mais aussi l'homme derrière l'écran. Pour Bernard Pivot, il était tellement mégalo qu'il croyait avoir inventé la vulgarité à la télévision. Thierry Ardisson imposa pendant des décennies au paysage audiovisuel français une voix, une silhouette, un style, un esprit teinté de curiosité et d'irrévérence, a réagi l'Élysée dans un communiqué saluant un homme qui contribua à écrire l'histoire de la télévision française. Sans en révéler les détails, son entourage a indiqué lundi qu'il avait laissé des instructions à ses proches pour ses obsèques. Il avait également choisi de se dévoiler dans un documentaire réalisé par Audrey Crespo-Mara, « La face cachée de l'homme en noir », diffusé récemment sur TF1.
Merci beaucoup François Ventum.
Il y a comme un goût amer en nous. Comme un... Pas comme avant.
On finissait l'émission d'hier avec France Gall, on commence l'émission d'aujourd'hui avec elle également, et la chanson évidemment. L'année dernière, l'Australie créait un poste d'envoyé spécial pour la lutte contre l'antisémitisme. La mission avait été confiée à Gillian Segal, responsable de l'association des Juifs australiens. Elle avait pour mission de consulter les groupes communautaires et d'en rendre compte au gouvernement. Eh bien, c'est chose faite, elle vient de remettre un rapport et Anthony Albanese va l'étudier. Reportage. L'année dernière, l'Australie créait un poste d'envoyé spécial pour la lutte contre l'antisémitisme, annonce faite par Anthony Albanese. La mission a été confiée à Gillian Segal, responsable de l'association des Juifs australiens, qui a pour mission de consulter les groupes communautaires et d'en rendre compte au gouvernement. Cette initiative faisait suite à une montée de l'antisémitisme depuis le déclenchement de la guerre contre Israël par le Hamas. C'était le 7 octobre 2023. Eh bien, un rapport vient d'être remis au gouvernement qui va maintenant l'étudier. Pour le Premier ministre, ce rapport est une base pour aller de l'avant. Anthony Albanese a souligné qu'il ne s'agit pas d'un problème nouveau, l'antisémitisme, mais d'un fléau toujours aussi insidieux.
Antisémitisme is an evil scourge and there is no place in Australia for antisémitisme. The kind of hatred and violence that we've seen on our streets recently is despicable and it won't be tolerated, and I want those responsible to face the full force of the law.
Gillian Segal a été nommée envoyée spéciale chargée de la lutte contre l'antisémitisme il y a un an. Elle appelle aujourd'hui à un effort national pour lutter contre ce qu'elle qualifie de l'une des plus anciennes haines au monde.
The plan is grounded in Australian values. It's proactive and it's adapted to our federal legal framework.
Son plan de lutte contre l'antisémitisme met en garde contre des incidents qui ont atteint des niveaux profondément inquiétants, je cite, plus 300% entre octobre 2023 et septembre 2024, avec plus de 2000 cas signalés.
And that includes threats, vandalism, harassment and physical violence. We've seen cars being torched, synagogues being torched, individual Jews harassed and attacked. And that is completely unacceptable.
Rien que la semaine dernière, l'envoyé spécial a relevé une tentative d'incendie criminel visant une synagogue à Melbourne et l'envahissement d'un restaurant appartenant à des Israéliens par des manifestants. Les suspects rejettent le motif antisémite. Qu'importe, répond Anthony Albanese.
Every your issue in the Middle East, it is not advanced by attacking people here in Australia because of who they are. Because of their faith, because of their identity.
Le rapport souligne également que les jeunes Australiens sont plus susceptibles que les Australiens plus âgés d'avoir des opinions antisémites. Les recommandations de l'envoyé spécial visent plusieurs domaines de la société civile, notamment la révision et, le cas échéant, le renforcement des lois contre la haine, l'éducation dans les écoles, la réforme universitaire, la régulation en ligne, ainsi que le rôle des médias publics, bien sûr. Alex Rifshin, du Conseil exécutif des Juifs australiens, soutient la nécessité d'une réponse large et approfondie.
The fact that it's not merely something for the federal government, but it's across all society. But the role of the government will be fundamental in this, in terms of both directly engaging with the plan, implementing aspects of it, but also sending a clear message through society that this is the way forward and the expectation is that everyone will do their part.
Mais d'autres personnes ont exprimé des inquiétudes quant à l'impact potentiel de ces recommandations si elles sont adoptées. Dans une déclaration, le Jewish Council of Australia a averti que ce plan risque de porter atteinte aux libertés démocratiques en Australie, en attisant et en renforçant des approches sélectives du racisme au service d'agendas politiques. À l'instar de son directeur exécutif, le Dr Max Kaiser, qui a confié à SBS qu'il considère le rapport comme une erreur et qu'il pourrait mener à une répression généralisée de la liberté de critiquer Israël.
I mean, this is straight out of the Trump playbook. This is mislocating the problem of anti-Semitism as being a problem of migrants, cultural institutions, universities. And by implication, the protest movement. And we think that that is not the source of anti-Semitism. There are serious issues with anti-Semitism in Australian society, but they can't be dealt with in isolation. They have to be dealt with as part of much broader efforts to tackle racism as a whole in Australian society.
Le rapport est désormais entre les mains du gouvernement. Les recommandations vont être étudiées avec soin. Promesse du Premier ministre. Voilà, c'était un reportage de Tom Steiner et Gabriel Catanacho pour SBS News, traduit par Marianne Murat pour SBS French.
Ah, si j'étais riche, si j'étais une célébrité, sûrement que la vie serait moins pénible et plus drôle. Si j'avais du talent, si je savais écrire et chanter, j'aurais plus de power, moins de...
C'est la chanson Un peu de temps, chantée par Neg Marron. Restez sur SBS French, messieurs, dames, tout de suite, on va partir à la rencontre de Eva Bonnet. Peut-être que vous la connaissez mieux sous son nom sur les réseaux sociaux. Bonjour, mate. Eva Bonnet, c'est une femme souriante et résiliente de 36 ans qui nous raconte sa vie, son parcours et la parentalité.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Nous sommes en studio avec Eva Bonnet. Eva, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Certains connaissent votre nom, d'autres connaissent votre compte. Bonjour mate, puisque vous avez un compte Instagram qui est suivi par, accrochez-vous bien, 460 000 personnes, c'est énorme. ces followers qui suivent vos aventures et regardent vos vidéos qui jouent sur la double culture franco-australienne. On va en parler dans un instant. Mais déjà, pour vous présenter, Eva, vous êtes née à Saint-Tropez, dans le sud de la France, il y a 36 ans.
C'est exact.
Vous êtes née d'une maman anglaise et d'un papa français, donc vous avez toujours baigné dans cette double culture. Puis, en 2019, vous avez rencontré un homme, c'est devenu votre mari.
Oui.
Vous avez eu deux enfants, vous avez deux chats aussi. C'est important, faut jamais oublier les animaux. Je trouve que du moment où on a des enfants, et les gens oublient que nos animaux, c'est aussi nos bébés.
C'est vrai, et nous, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse un effort supplémentaire pour prendre des photos de Noche et Dia chaque jour, parce qu'avant, on prenait des photos de tout le temps. Et ça a vraiment chuté.
Eva, votre compte cartonne, notamment, on l'a dit, grâce à vos vidéos légères sur la parentalité, être une maman française en Australie. Comment ça se passe? Eh bien justement, comment ça se passe d'être une maman française en Australie? Est-ce que c'est différent que d'être une maman française en France?
J'ai toujours été maman que en Australie, donc est-ce que je peux parler avec expérience? Peut-être pas tout à fait, mais... En étant française et en ayant donc observé d'autres mamans comme ma sœur et mes amis, je trouve que effectivement les mamans en Australie ne sont pas tout à fait pareilles que les mamans en France. Je pense que en France, la maman française est bien que aimante, peut-être un peu plus exigeante. Que la maman australienne qui me semble plus dans le gentle parenting.
Justement, en ayant fait ce constat, vous jouez sur les clichés quand on regarde votre
compte. J'exagère.
Et ça fonctionne.
Oui.
Est-ce que c'est des Australiens qui vous suivent et qui justement se disent « Oh, mais ce cliché français me plaît bien » ou est-ce que c'est quand même plus une communauté francophone?
C'est vraiment une communauté très diverse, mais beaucoup d'Australiens, effectivement, et beaucoup d'anglophones en règle générale. Donc, il y a un public américain et anglais aussi. Et il y a des Français.
Évidemment. Ce compte, vous l'avez créé il y a 2 ans sur TikTok et ensuite vous êtes allé sur les autres réseaux sociaux. Et à la base, ce n'était pas du tout pour publier une dizaine de vidéos par jour et faire rire des clichés. C'était pour faire un peu de français avec votre premier petit garçon, Bastien.
Oui, c'est exact. Vraiment, lorsque Bastien est né, j'ai eu une envie de transmettre ma culture française et surtout la langue française. Donc, je me suis mise à faire des petites vidéos avec Bastien qui étaient vraiment toutes mignonnes. Souvent, je peignais ou je dessinais un fruit et je disais le nom du fruit en français pour lui apprendre avec une petite image de Bastien. Et puis, bah, ça a progressé. C'est devenu quelque chose qui me passionnait. J'ai reçu beaucoup de retours très positifs. Et voilà.
Eva, on le voit quand on regarde vos vidéos, quand on vous suit sur les réseaux, on le voit également quand on vous connaît en vrai, vous êtes toujours extrêmement chic, magnifique, très apprêtée. En vrai, entre nous, Eva, est-ce que parfois vous vous laissez aller?
Bien sûr, absolument, il ne faut pas me voir le matin au réveil, c'est un mix de pull, pyjama sympa, mes shorts qui ne matchent pas, je ne suis pas parfaite.
Là aussi peut-être un petit cliché à la française.
C'est gentil, mais c'est notamment grâce à Blue Illusion pour qui je suis brand ambassador.
Et vous disiez tout à l'heure les vidéos avec Bastien où vous lui faisiez apprendre le français, ça a très bien fonctionné, c'est sûrement ça qui vous a donné l'inspiration ensuite de donner des cours de français. Vous faites du tutorat.
Oui, c'est exact. En fait, en faisant ces vidéos, c'est venu naturellement. Les gens ont commencé à me demander « Mais est-ce que tu donnes des cours de français ?» Alors, j'avais déjà donné des cours de français ci et là dans le passé avec des Australiens avec qui je travaillais. On se réunissait dans des cafés, je donnais des petits cours de français avec un café, des choses comme ça. Mais effectivement, c'est venu naturellement. Et je voulais pas me lancer dans quelque chose où je promettais une formation pour passer des tests de niveau et tout ça, mais juste quelque chose qui permettait à ceux qui sont passionnés du français et qui veulent développer leur level of French conversation et puis aussi juste se détendre et passer un bon moment avec d'autres francophiles. Je me suis mis naturellement à proposer des classes qui permettent à toute personne qui est intéressée de se joindre.
Et pour aller même plus loin, au-delà des classes en ligne ou autour des cafés, vous organisez des retraites, parlez-nous-en.
J'ai organisé ma toute première retraite de langue française, donc un petit séjour immersif qui était en Australie, donc quelque chose de pas compliqué à mettre en place dans le sens où c'est ici en Australie qui permet à tout le monde de profiter un peu de culture française et de pratiquer le français tout en n'ayant pas besoin de faire 24 heures de vol.
Et c'était une bonne ambiance. Comment ça s'est passé? Vous avez parlé français tout le week-end, mangé des spécialités?
Soyons honnêtes. On a parlé de l'anglais aussi, mais on a essayé quand même de parler français. Tout le monde s'est extrêmement bien entendu. Elles l'ont toutes dit que c'était un groupe exceptionnel et c'est vrai. Elles avaient vraiment au cœur la passion de la France et du français. Elles partageaient ça et ça a fait qu'elles se sont unies. Ça s'est très bien passé.
Voilà. Super, donc vous allez en refaire?
Oui, à 100%. Sauf que j'espère que la prochaine fois, je dormirai parce que j'ai pas dormi pendant une semaine de l'angoisse. J'espère que la deuxième fois, je dormirai un peu plus.
Donc vous savez que ça s'est bien passé.
Oui.
Eva, il y a un aspect qu'on connaît un petit peu moins, mais qui explique sûrement beaucoup de choses quand on vous connaît aujourd'hui, le côté très résilient, très souriant. C'est votre combat contre la maladie. En 2020, un an seulement après avoir rencontré votre compagnon et alors que vous n'aviez pas encore d'enfant, on vous a diagnostiqué, si je ne me trompe pas, un cancer des os et on vous a dit que vous n'auriez pas d'enfant.
Oui, on m'a dit effectivement que c'était presque certain que ça serait difficile en tous les cas d'avoir des enfants. On m'a proposé de voir un fertility doctor. Très sincèrement avec vous, lorsqu'on m'a annoncé ça, moi j'étais dans la peur de ce qui m'attendait et c'était vraiment pas important quand on me l'a dit.
D'accord, malgré mais, le fait que 30 ans, c'est souvent l'âge où on veut fonder une famille.
Et effectivement, mais moi, j'étais pas encore là dans ma tête. Et vraiment, j'avais tellement peur. J'ai su après, donc j'en ai parlé avec à l'époque mon copain, ça faisait qu'un an qu'on était ensemble, effectivement. Et j'ai su après que sa famille lui ont parlé lorsque je n'étais pas présente et lui ont dit... Est-ce que tu sais dans quoi tu t'engages? Est-ce que pour toi c'est un deal breaker de ne pas avoir d'enfant? Et j'ai su après qu'il leur a clairement dit non, pas du tout, on aura des chats et on voyagera.
Et l'année de votre chimiothérapie, comment ça s'est passé? Vous avez tout de suite su que vous alliez vous en sortir?
Non, j'ai eu très peur. J'avais ce qu'on appelle ostéosarcoma high grade. Avec ostéosarcoma, le problème, c'est que c'est quelque chose qui paraît isolé, mais en réalité, ils sont obligés de le traiter comme si c'était un cancer systémique, parce que malheureusement, très souvent, sans qu'on s'en aperçoive, et de nulle part, ça passe dans les poumons. Ça commence dans les os, et pour une raison ou pour une autre, ça termine dans les poumons. Et en général, lorsque ça se termine dans les poumons, c'est véritablement très mauvais. Donc j'avais très peur, mais on m'a donné une chimiothérapie qui était radicale. Et c'était très difficile, mais on m'a rassurée. Voilà, on m'a rassurée, j'avais des super docteurs, on m'a rassurée quand même, on m'a pris la main, on m'a rassurée.
Et là, vous vous êtes dit, votre conjoint, il a été formidable, c'est le bon.
Il a été incroyable, il a passé la nuit à l'hôpital avec moi, tant qu'il pouvait. Après, les restrictions Covid sont devenues plus sévères. Il n'avait même plus le droit de m'emmener jusqu'à mon ward. Et c'était très difficile. Je hurlais. Vous ne pouvez même pas imaginer. Je hurlais, je pleurais. J'étais dans... Je hurlais. Il fallait que des infirmières viennent me soulever du sol. C'est très difficile dès le départ. Mais en plus de ça, au fil des semaines, lorsqu'on vous rajoute des traitements, vous devenez très faible. Et ça devient très difficile à supporter, mentalement, physiquement. Ouais.
C'était il y a 5 ans, et oui. Vous êtes en rémission aujourd'hui?
Ouais, je suis en rémission et j'attends donc les 5 ans de rémission qui seront en décembre.
Est-ce que vous avez des projets pour la suite?
Oui, alors je veux effectivement, donc avec Bonjour Maître, aller plus loin. Je suis en train de travailler sur une plateforme qui me permettrait de faire des choses plus interactives. Aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a, mais j'aimerais avoir quelque chose qui permette aux gens de s'entraîner, enfin des choses plus interactives. Donc je travaille sur ça. J'ai des projets de vivre en France aussi avec ma famille. On espère pouvoir faire au moins 6 mois de l'année ci et là en France. Et puis... j'ai la chance de pouvoir faire ça de là-bas aussi. Et puis, quoi d'autre? Voilà, ça, c'est mes projets principaux en ce moment, en tous les cas.
Où est-ce que vous trouvez le temps? 2 enfants, une famille, un travail, du sport, c'est quoi votre secret?
Quelque chose quand même qui est important, parce que j'ai dit que lorsqu'on m'a annoncé que je ne pouvais pas avoir d'enfants, je n'étais pas désarmée. Mais je veux quand même dire quelque chose d'important, et j'en viens à ça. C'est que après le traitement... c'était la partie la plus difficile, les mois qui ont suivi. Je suis vraiment tombée dans un gouffre dépressif où je voulais ma vie d'avant, où je ne me reconnaissais pas physiquement, mentalement. Je ne me sentais pas bien. Et quand je suis tombée enceinte de Bastien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, je l'ai gardé un secret. Je ne l'ai même pas dit à mon mari pendant presque 2 semaines. Parce que je me suis sentie tellement bien d'avoir ce secret. Et il a ouvert une nouvelle porte sur la vie. Je ne veux absolument plus ma vie d'avant. Parce que c'est la vie avec Bastien et maintenant Maxime aussi qui est celle qui compte. Et qui est la plus merveilleuse. Et puis avec Christian, on s'est mariés et tout ça. Tout ça pour dire, je trouve pas beaucoup de temps. J'ai vraiment très très peu de temps. Mais vraiment, je pense que c'est grâce à eux si je fais tout ce que je fais. Sincèrement.
Un entretien tout en pureté, tout en authenticité. Merci beaucoup Eva.
Merci à toi Marianne.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Paris, 48 degrés nord, 2 degrés est. 5h50, vous quittez votre appartement. Il fait encore nuit. Les néons claquent sur vos rétines. Un taxi. La Seine, la pluie. Porte de Vincennes, puis l'autoroute, direction Roissy. Terminal 2, vous enregistrez votre valise. Elle disparaît sur la dentelle de caoutchouc et se mêle aux autres bagages dont la destination vous est inconnue. Une série d'escalators vous escorte jusqu'aux douanes. Vous ne ralentissez pas devant les boutiques hors taxes, mais au coin presse, vous piochez un hebdomadaire. Le courrier international titre « Voyage dans l'Irlande du Brexit ». 8h10. Vous embarquez pour le vol AF38. Deuxième couloir sur votre droite, vous rejoignez le siège 27K. Vous ne prêtez plus attention aux consignes de sécurité chorégraphiées par des automates haute couture. L'Airbus accélère sur le tarmac. Bourdon vrombissant, poinçonné de 220 hublots, il prend de l'altitude. Ses vibrations vous bercent presque instantanément. Il transperce une couche épaisse de nuages semblable à un oreiller crevé. L'ouate s'étale en mouton sous vos yeux. Vous quittez la ville lumière et vos insomnies. Heures de vol vous séparent de lui. À chaque turbulence, vous vous représentez son visage. Combien de fois penserez-vous à lui durant ce voyage? Vous quittez définitivement l'espace Schengen aux alentours de midi. Les fuseaux horaires et les paysages défilent. Sur votre écran apparaît la course de l'appareil et l'avancée du jour sur la nuit. Voix off céleste encombrée de sons parasites. Le commandant annonce l'heure d'arrivée et la température à destination. Sous la vitre, les lumières miniatures des Émirats ressemblent à des pixels extatiques presque spirituels. Escale de nuit à Abu Dhabi. Deuxième décollage à 21h10. Plus que 13 heures pour atteindre l'été. Dans la carlingue, il n'y a pas de saison. L'air conditionné assèche votre épiderme. L'immobilité prolongée déglingue votre circulation sanguine. Votre corps s'est alourdi. Vous survolez le Sri Lanka à l'aube, Kuala Lumpur, Singapour et Jakarta en plein jour. Il vous attend. Il est encore plus beau vu du ciel. Vos tympans peinent à s'accommoder au changement de pression. Une douleur à l'oreille vous signale la fin du parcours. Soleil chant, votre avion amorce sa descente sur l'état du Victoria. 17h50. 37 degrés sud, 144 degrés est. Melbourne.
Eva Bonnet qui se divise entre Paris et Melbourne, Sophie Morin également avec cette chanson. En 2020, SBS French recevait l'académicien Jean-Luc Marion sur son antenne. L'œuvre de Jean-Luc Marion prend place dans le courant de la phénoménologie française. Il nous raconte ce que c'est. Christophe l'a rencontré, c'était en 2020 pour SBS French Archive.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Eh bien, aujourd'hui dans le programme, nous allons parler philosophie. Nous avons un homme illustre qui nous vient directement de France. Il s'appelle Jean-Luc Marion, philosophe, académicien. Bonjour.
Bonjour.
Votre travail en France, c'est centré autour de publications et beaucoup de réflexions. On peut en parler un petit peu. Ce qui vous habite.
Moi, j'ai fait ma carrière en France en même temps qu'aux États-Unis, mais essentiellement, j'ai commencé très classiquement en faisant de l'histoire de la philosophie. Et quand on est français, le meilleur observatoire pour avoir une approche globale de l'histoire de la philosophie, c'est Descartes. Les Allemands, c'est Kant, les Anglais, c'est Hume, nous, c'est Descartes. Donc j'ai travaillé pendant très longtemps sur Descartes en essayant de le mettre en rapport, ce qui n'avait pas été vraiment fait, avec Aristote et avec la philosophie médiévale. Et en même temps, je me suis toujours intéressé à ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la philosophie de la religion. C'est-à-dire comment ce que la philosophie peut dire de Dieu peut avoir, ou non, un rapport avec ce que, par exemple, la foi chrétienne peut dire de Dieu. Et c'est pas du tout certain que les deux se recoupent totalement, ni même partiellement. Et puis, après, je me suis intéressé, parce que la philosophie doit devenir proprement spéculative et pas seulement historique, je me suis attaché à pratiquer l'une des deux ou trois méthodes philosophiques contemporaines qui s'appelle la phénoménologie, c'est-à-dire la pratique qui a été lancée par Husserl, reprise par Heidegger, qui va jusqu'à Lévinas, Derrida, etc.
D'accord, et voilà, c'est là d'où votre livre le plus important, étant donné.
Étant donné était la partie la plus visible d'un travail qui consistait à se demander quelle est la véritable, si je puis dire, identité, la fiche d'identité des phénomènes que nous rencontrons. Et il y a plusieurs candidats, si je puis dire, pour nationaliser les phénomènes, pour donner un passeport aux phénomènes. La forme la plus simple d'identification des phénomènes, c'est de dire que ce sont des objets techniques, des objets qui sont entièrement mesurables et qui peuvent être construits de manière exhaustive. On peut dire que la société contemporaine est essentiellement construite sur l'assumption que les phénomènes, ce que nous voyons, ce qui nous apparaît et ce que à quoi nous répondons, sont des objets. Alors bien entendu c'est vrai, mais ça ne l'est que très partiellement. Alors il y a eu un mouvement extrêmement puissant de critique du caractère objectif des phénomènes, que l'on doit entre autres à Heidegger, qui consiste à revenir sur le fait que certains phénomènes sont, ce qu'on appelle des étants, sont sans être pourtant objectivables. C'est un point capital, parce que quand on admet ceci, on réalise que une grande part de notre monde réel et de ce qui nous affecte le plus n'est justement pas objectivable. Et que c'est seulement en apparence que nous vivons au milieu des objets d'abord. Ce pourquoi nous vivons n'est pas ce avec quoi nous vivons. Nous vivons, il est vrai, la plupart du temps avec des objets, mais nous ne vivons pas à cause des objets, ni pour les objets, à moins d'être, pour ainsi dire, soi-même robotisé ou devenir fou. Nous vivons pour des phénomènes, autrui, etc., qui ne sont pas des objets. Alors Heidegger les pense, et beaucoup d'autres avec lui, les pensent comme des choses qui sont. Mais j'ai suggéré qu'il y avait une troisième possibilité, à savoir qu'il y a même des phénomènes qui, en un sens, ne sont pas. Au sens où nous pourrions leur trouver une essence, où nous pourrions prouver leur existence dans la continuité temporelle, etc. Mais où ils nous sont donnés. Et l'un des exemples les plus fondamentaux de cette donation, d'un quelque chose qui n'est ni un objet, ni un étant qui subsiste, c'est par exemple l'événement historique. L'événement historique, et Dieu sait s'il est déterminant dans notre expérience, puisque c'est lui qui structure en fait la temporalité et l'avenir, l'événement historique ne dure pas. L'événement historique n'est pas objectivable, il n'est parfois, c'est Peggy qui dit cela, il n'est même pas visible. Moi j'ai été très frappé, l'exemple tombe sous le sens, je me trouvais enseigné à Boston au moment du 11 septembre. Et donc j'étais exactement au centre d'un événement. Et on voit très bien que l'événement est insaisissable. On ne veut pas dire que l'événement est, puisqu'il est déjà passé au moment où on s'en aperçoit. Et pourtant, c'est lui qui, en se donnant, structure en fait la vie de tous ceux qui le reçoivent. Et tout le monde se souvient du jour où il est, enfin, de l'endroit où il était le 11 septembre. Il sait que c'est une nouvelle période qui commence. Donc cet événement qui n'est plus, plutôt ces choses qui ne sont plus, reste un événement. Et c'est cela que j'appelle le donner, la donation.
D'accord. Et la mémoire dans tout ça?
La mémoire est rendue possible par le donner. C'est-à-dire, la mémoire, c'est une chose très, très étrange, puisque ça consiste à rendre présent ce qui ne l'est plus. Bon. Et ça ne veut pas dire que ce qui est mémorisé est moins présent que ce qui est actuellement présent à la conscience. On pourrait même dire l'inverse. Les choses que nous avons dans la mémoire, qui donc ne sont pas, ne sont plus, sont peut-être plus déterminantes pour définir mon identité, mes actions, mes choix, que ce qui est.
D'accord.
Et c'est ça que j'appelle le donner. Donc c'est un très bon exemple. De fait, la mémoire, ce dont on se souvient, et même d'ailleurs ce dont on ne se souvient pas et qui agit sur nous, peut-être sous la forme d'un trauma, peu importe, cela n'est pas, et pourtant, cela se donne.
D'accord. Et la mémoire collective alors dans tout ça?
Bien entendu. La mémoire collective qui fait qu'on a un dessin historique, c'est le fait que des gens se reconnaissent le même... Alors là, on peut introduire même le donner comme l'immémorial, c'est-à-dire les gens ont le souvenir de quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu au présent. Quand vous avez une histoire commune, une nation, c'est le fait que les gens reconnaissent comme une partie de leur mémoire, non pas ce que dans la mémoire habituelle on a, à savoir on a la mémoire de quelque chose qui nous est actuellement arrivé. Or, une identité historique, c'est d'avoir la mémoire de quelque chose dont on n'a jamais été contemporain.
D'accord, alors je vais extrapoler là-dessus. Les Australiens, quand on parle de la Première Guerre mondiale, oui. Il y a cette mémoire d'Anzac.
Oui.
C'est exactement
oui,
ça.
C'est exactement
quand on
ça.
Voit des jeunes qui sont aujourd'hui touchés par Anzac, c'est ça.
Et bien entendu. C'est-à-dire que l'Australie est faite de la mémoire de plusieurs immémoriaux. Il y a les populations originaires, et il y a la guerre de 14, qui était le moment où non seulement l'Australie est devenue visible sur la scène internationale, mais l'Australie s'est donnée à elle-même. Et ceci structure évidemment toujours l'identité des gens qui n'ont évidemment pas vécu cela. Et c'est donc le donner est une description beaucoup plus large de la réalité que l'être ou l'objectivité.
D'accord. Et si on part, on extrapole un peu en avant, on sait que l'Australie, c'est un pays qui est construit sur des vagues d'immigration. Donc, il y a des immigrants et des migrants qui arrivent ici avec une autre mémoire collective. Mmh. Par exemple, la Première Guerre mondiale, elle n'a pas du tout la même valeur pour un immigré français, allemand, turc, italien. Mmh. Ça veut dire que, en termes de mémoire collective pour un pays, ça adoucit, ça mélange, c'est un melting pot, c'est juste différent. On ne sait pas.
Là, on se débrouille. Je veux dire, une identité, ça c'est toujours une identité collective est toujours le résultat d'une négociation implicite ou explicite. En l'occurrence, implicite. Bon, et il y a un jeu d'interprétation, d'herméneutique qui se croisent et qui se renforcent ou qui se contredisent. C'est d'ailleurs pourquoi la littérature est essentielle. Ce que les gens ne comprennent pas, je suppose que... En Australie, c'est comme en Europe, c'est-à-dire que les politiques d'éducation sont relativement bêtes. C'est-à-dire, tout le monde pense que les humanités, c'est pas important. Or, les humanités, c'est justement l'éducation à la littérature. C'est justement ce qui permet de répondre à la question que vous posez. La question que vous posez, c'est comment des gens avec des immémoriaux différents, qui se sont trouvés recevoir une identité, un donné, qui peut-être ne peut pas coexister avec le donné des autres, comment est-ce que une synthèse est possible? Elle est possible parce qu'il y a des gens qui travaillent directement sur le donné. Sur l'imaginaire, sur la mémoire, ce sont les écrivains. Et c'est pourquoi, quand on n'étudie pas la littérature, un pays devient incapable de savoir, non seulement de savoir qui il est, ça à la rigueur on peut vivre sans savoir qui on est, c'est peut-être d'ailleurs nécessaire, si on savait qui on était, on pourrait peut-être plus vivre. Donc, peu importe, mais je veux dire, il n'est pas possible de vivre sans qu'il y ait une, si je puis dire, une ignorance contrôlée. Et cette ignorance contrôlée, elle nous est donnée en particulier par cette forme fondamentale de la réflexion commune, qui est la littérature.
Vous avez vu un travail sur Hergé également.
Oui.
Pourquoi?
Parce que c'est un génie littéraire, justement. Hergé,
le papa de Tintin, pour
ceux qui connaissent. Oui, je l'ai rencontré, on a parlé, enfin, c'était très, très bien. Eh bien, parce que Hergé, pour moi, j'ai lu Hergé comme, j'ai lu Tintin comme tous les enfants très tôt, Et un jour, j'ai réalisé que j'avais appris, c'est le rôle de la littérature, la réalité du monde en avance. C'est-à-dire, à l'âge de 7 ans, je lisais Tintin, le Crabe aux pinces d'or, qui était une histoire d'opium, de trafic d'opium. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était que l'opium à 7 ans. À ces époques très anciennes, on était naïfs.
Bon, ni l'idée du trafic même.
Trafic peut-être, si, mais
traficotage.
Mais opium, je ne savais pas ce que c'était. Et c'est seulement longtemps après que j'ai compris que l'opium, c'était une drogue. Mais simplement, je savais à l'avance, avant d'avoir rencontré la chose, que la drogue existait. Et c'est ça, la littérature. La littérature, c'est que vous savez à l'avance ce qui va vous arriver. Bon, les petits-enfants grecs, ils apprenaient ça dans Homère. Je suppose que les petits romains, ils apprenaient ça dans Virgile. Du moins, c'était l'intention de Virgile. Et on l'apprend dans la littérature. Donc, les enfants qui ne lisent pas de la littérature, et la littérature peut bien être une littérature de bande dessinée quand elle est de bonne qualité, eh bien, ils sont analphabètes. Même s'ils savent lire, ils n'ont pas les concepts et les significations. Donc, quand l'événement leur arrive, ils le reconnaissent pas, ils sont complètement désorientés, ils sont perdus. Et c'est comme ça qu'on marginalise les classes d'âge. C'est pourquoi le fait de faire passer à la trappe en France et dans d'autres pays ce qu'on appelait dans le temps les humanités, eh bien c'est criminel parce que ça suscite le malaise des enfants et éventuellement la violence. C'est, si on veut éviter la violence dans les rues, que les enfants lisent les grands romans.
Il y a quelque temps, Nicolas Sarkozy avait voulu réinstaurer l'éducation civique.
Oui.
À l'école. Pour vous, c'était il aurait fallu réintégrer l'humanité plus que l'éducation civique, ou ça en fait partie?
Alors, premièrement, tous les hommes politiques, quand ils sont affolés devant les choses, ils disent qu'il faut renforcer l'éducation civique. Alors, quand on leur dit qu'est-ce que c'est que l'éducation civique, là, à ce moment-là, ils savent plus exactement de quoi il s'agit. Donc, je ne prends pas, Sarkozy n'a fait que répéter ce que Chevènement avait dit, ce que Chirac avait dit, ce que tout le monde dit. Bon, tout ça, c'est de l'écume, du bruit. Les hommes politiques ayant actuellement une parole qui ne porte pas. Dévaloriser, c'est un bon exemple. Non, bien entendu, l'éducation civique, elle peut être faite, faites lire Les Misérables aux mômes. D'ailleurs, quand Hugo écrit Les Misérables, c'est à ça qu'il pensait. Faites-leur lire Molière, qui savent reconnaître quelqu'un qui devient fou à cause d'une de ses passions, quelles que soient ses passions, qui comprennent le mécanisme de l'avare, du barbon qui veut être malheureux, du vaniteux social, enfin qui voit quelles sont les maladies sociales. Bon, si les enfants voient ça, entre 10 et 15 ans, eh ben quand ils le rencontreront vraiment dans la réalité, ils l'ont peut-être déjà rencontré d'ailleurs dans la réalité, ils sauront que c'est une pathologie, si je puis dire, normale. Bon, ça c'est de l'éducation civique, ou de l'éducation morale si vous voulez, mais c'est pas moralisant, c'est simplement d'apprendre à donner un nom aux événements qui se donnent. Si vous avez uniquement une formation technique, vous pouvez identifier des objets. Vous serez très fort pour taper sur votre ordinateur et faire des trucs comme ça. Mais nous ne vivons pas d'abord avec des objets techniques. Nous vivons d'abord avec des événements qui nous arrivent et des autrui que nous ne pouvons pas véritablement connaître. C'est ça qu'il faut apprendre.
Et j'ai une dernière question par rapport à votre autre casquette d'académicien. Mmh. Hormis le dictionnaire, vous faites quand même beaucoup plus à l'Académie française.
C'est le dictionnaire, énorme. Comme vous y allez, c'est énorme, le dictionnaire.
Je fais exprès de vous...
Oui, mais je veux dire, le dictionnaire, on en est à la 9e édition, je crois, pourvu que je ne me trompe pas. Et on me fera des reproches de ne pas savoir. Mais le nouveau dictionnaire va introduire un quart de plus de mots par rapport à la précédente édition. Donc c'est un travail assez considérable. Et puis, il y a aussi le fait de valider toutes les équivalences qui sont créées de manière incessante dans les vocabulaires techniques. Donc, l'Académie fait ces choses-là, puis nous passons quand même un peu d'énergie à distribuer des prix, et donc à nous disputer un peu entre nous, pour savoir quel est le meilleur roman, le meilleur essai, le meilleur poète, etc. Et puis, nous disputons aussi, gentiment mais fermement, pour les élections. D'accord. Tout ceci nous occupe beaucoup.
Mais les débats doivent être, pour vous, intéressants, valorisants, ça vous fait...
Mais écoutez, l'Académie française a tous les défauts du monde, peut-être, mais il n'y a personne qui y soit idiot. Tout le monde y est, d'une manière ou d'une autre, très talentueux dans un domaine. Il y a toujours beaucoup à apprendre. Et en plus, j'allais dire, surtout quand nous sommes en désaccord, les gens sont d'une courtoisie extrême. Alors, je dois avouer que c'est un vrai plaisir et parfois une vraie joie que de fréquenter la compagnie de tels compagnons.
Et ben voilà, on va finir là-dessus. Merci, Monsieur Marion.
Je vous en prie.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Sur la lune, sur une île, on ira. Sur la terre où tu voudras. Sur la mer au bout d'un détroit. Voir la lumière qui change, l'horizon qui se mélange, les océans.
Crois-moi, c'est Gaëtan Roussel sur les ondes de Radio SBS. C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi, même fréquence, même heure. Votre programme sera présenté par Jean-Noël Ducasse. Quant à moi, je vous retrouverai pour les chroniques et je vous souhaite de passer un merveilleux dimanche après-midi. Au revoir, messieurs, dames.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.